Bonjour, bonjour Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra, bienvenue, welcome, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis quelque part à la fin du 19e siècle. Cela, je ne le fais pas à chaque fois, mais je vous apprendrai ou donc je vous rappellerai que notre générique et bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'un film de Blake Edwards, un petit bijou sorti sur les écrans en 1962. En français, ça s'appelle, on ne sait trop pourquoi, Diamant sur canapé. En anglais, Breakfast at Tiffany's. Audrey Byrne et George Peeple en sont dans les interprètes principaux. Et la musique, eh bien, ce fameux Moon River qui lui valut un Oscar. Elle est signée d'Henry Mancini. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous serons dans des horizons mentaux, géographiques, graphique et temporel très différent, puisque nous allons consacrer cette émission à un compositeur qui aura eu une carrière assez brève, mais qui a été et qui reste encore très important pour ce qui est de la musique de film française, en l'espèce Maurice Jobert, un compositeur français, donc vous l'aurez compris, né à Nice au tournant du siècle, vraiment, puisqu'il est né le 3 janvier 1900. Fils de bâtonnier, c'est-à-dire d'avocat, eh bien, il s'oriente tout naturellement vers des études juridiques et devient même à 19 ans le plus jeune avocat de France. Pour autant, après 4 années d'exercice qu'on imagine contrarié, eh bien, il décide d'abandonner radicalement pour une nouvelle profession et d'abandonner donc le barreau pour la musique. Très rapidement, il compose ses premières œuvres, qui sont des œuvres qu'on va qualifier de musique classique, par opposition, entre guillemets, opposition à la musique de film, des suites pour violoncelle, des mélodies pour piano, inspirées de Mallarmé, de Rabindranath Tagore, etc., etc. Bref, des choses relativement sophistiquées, et même, et ce sera sa première incursion, on va dire, dans le monde du spectacle proprement dit, une musique de scène pour une pièce de Calderón, le magicien prodigieux monté en 1925. Il est ensuite engagé par la fameuse maison Pleyel pour s'occuper d'un piano automatique, ce qui ne manque pas de sel quand on connaît la suite de sa carrière, mais si je le mentionne, c'est que à cette occasion, eh bien, elle rencontrera entre autres, et excusez du peu, Maurice Ravel, qui sera même son témoin de mariage, témoignage d'une amitié profonde entre les deux compositeurs, et le cinéaste Jean Grémillon, qui est aussi connu pour être un musicien émérite, avec lequel il va signer, eh bien, la première de musique de film que nous allons entendre, la musique de la bande originale d'un film de René Clair, intitulé 14 juillet, un film tourné en 1933, avec dans le rôle principal, hélas, les autres sont passés, je dirais, à l'inconnu de la gloire cinématographique, et même peut-être que le nom d'Annabella, qui fut certainement l'une des plus grandes stars féminines du cinéma français et mondial, puisque après avoir épousé Tyrone Power, elle poursuivra une carrière américaine, eh bien, Annabella est l'interprète principale de 14 juillet, un film qui, comme vous l'aurez peut-être deviné, se déroule justement un 14 juillet et duquel je vous dirai un petit peu plus après avoir écouté un extrait de sa bande originale, 14 juillet, mais dans 24 notes secondes.
« 14 juillet, chanson d'un soir d'oubli, valse des carrefours, à Paris, dans chaque faubourg. Il y a un bal populaire et des lampions s'allument pour éclairer l'idylle. » Thank you.
Un extrait commenté, vous l'avez entendu, de la bande originale de 14 juillet. Une musique signée Maurice Jobert sur une idée de Jean Grémillon pour un film de René Clair. René Clair qui, au début des années 30, eh bien, signa quelques chefs-d'œuvre et sans coup faire rire une transition du muet au parlant, puisqu'il avait lui-même débuté au muet, une transition du muet au parlant qui n'y posa absolument aucun problème, en tout cas qui lui permit même de décupler son inventivité avec des films comme Le Million ou À nous la liberté qui sont devenus de grands classiques du cinéma français des années 30 et où René Clair, avec une prescience assez magistrale, eh bien, réussissait à insérer les dialogues et évidemment la musique, mais avec une parcimonie qui n'était pas forcément celle des débuts du cinéma parlant, où au contraire on se précipitait à adapter des pièces de théâtre et à faire donc des films extrêmement bavards. René Clair, lui, utilisait et le dialogue et la musique avec une grande parcimonie pour des films auxquels on pourra quand même reprocher une certaine froideur dans la composition. Tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. Les films sont le plus souvent, et c'est le cas de 14 juillet, entièrement en décor. Alors, les décors sont magnifiques. Ils sont signés, par exemple, pour 14 juillet par Lazar Mirson. Mais du coup, les décors eux-mêmes font partie de cette mise en scène extrêmement travaillée. Peut-être aussi que du coup, bien, le résultat, ce sont des personnages qui manquent un peu d'épaisseur humaine, un peu d'émotion, même si Annabella est tout à fait charmante dans le rôle d'une jeune fille qui est délaissée par son fiancé pour une mauvaise femme, évidemment, mauvaise femme qui est d'ailleurs incarnée par la très, très troublante Paula Ileri, qui a un accent roumain que je vous laisse découvrir si vous regardez le film. Et quand elle parle roumain en combinaison, eh bien même 70 à 80 ans plus tard, ça fait encore son petit effet, évidemment. Le film se finit bien, même si, comme souvent dans les films français, le 14 juillet, c'est aussi une occasion d'assister entre les personnages qui passent beaucoup plus de temps à s'engueuler qu'à s'embrasser. Mais voilà, un travers bien français. Je voulais quand même signaler que la musique du 14 juillet, même si c'est certainement l'une des premières de Maurice Jobert à avoir été reconnue, eh bien, c'était loin d'être sa première musique de film, puisqu'il avait signé quelques partitions documentaires pour un cinéaste scientifique un peu oublié depuis, mais qui reste quand même un grand homme du cinéma documentaire français des années 30, Jean Painlevé. Et puis, il avait aussi signé la bande originale d'un film à part, c'est le moins qu'on puisse dire, L'affaire est dans le sac, signé par les frères Prévert, à une époque d'agit-prop qu'il est beaucoup plus difficile d'évoquer maintenant. Ensuite, eh bien, Maurice Jobert fera au moins l'une des rencontres les plus ambitieuses de sa courte vie, puisqu'il composera la bande originale de deux films signés de Jean Vigo, là encore un cinéaste à la carrière incandescente à tous les sens du terme, c'est-à-dire extrêmement brillante, mais aussi extrêmement courte, puisque l'homme aura réalisé essentiellement un seul long métrage et un moyen métrage tout à fait remarqué. Et on va, dans un premier temps, écouter un extrait de la bande originale de ce moyen métrage. Ça s'appelle « Zéro de conduite ». C'est donc un film de Jean Vigo, tourné en 1933, avec Maurice Jobert dans 24 notes secondes à la baguette.
Thank you.
Voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment un extrait de la bande originale de Zéro de Conduite, un moyen-métrage de 47 minutes tourné par Jean Vigo en 1933, avec une musique un peu bastringue, un peu grotesque, un peu flonflon, de Maurice Jobert, qui accompagnait parfaitement ce qui ne pouvait être qualifié autrement qu'un appel à l'insurrection collégienne. Collégien, décollé de votre portable, collégienne, décollé de TikTok, d'Instagram et de toutes ces conneries, et précipitez-vous, renverser l'État, brûler les profs. Ça, on n'a pas le droit encore de le faire. Bref, en tout cas, Zéro de Conduite, Jean Vigo retraçait dans ce film, qui dans un premier temps devait s'intituler obligeamment Les Cancres, retraçait en fait sa propre vie de collégien révolté. Et nous étions en 1933, donc à l'époque, on ne rigolait pas et Cyril Hanouna n'existait pas encore. Donc le film fut rapidement interdit par la censure. Et cette censure se maintint jusqu'en 1945 avec l'effet Barbara Streisand bien connu, je vous en parlerai un autre jour, qui fit que d'être censuré, eh bien sa réputation grandit, qu'on le vit dans les ciné-clubs et que même aujourd'hui, je veux l'espérer, ce serait encore un brûlot anarchiste pouvant d'une certaine manière définir la personne même de Jean Vigo, né à Paris le 26 avril 1905 et donc à la très brève carrière, puisque avant Zéro de Conduite, il n'avait tourné que deux films, un moyen-métrage intitulé « À propos de Nice », justement, la ville natale de Maurice Jobert, et un court-métrage consacré à un nageur, un gars qui nage dans l'eau, dans une piscine, « Taris » ou « La natation », un court-métrage de 10 minutes. Ensuite, il y eut « Zéro de Conduite », et ensuite, il y eut un seul film, mais quel film ? L'un des plus grands films de tous les temps, d'une part, et des années 30, accessoirement, « La Talente », un film tourné en 1934, avec dans les rôles principaux Jean Dasté, Dita Parlo, une actrice que je qualifierais presque de franco-allemande, mais qui était allemande d'origine, mais qui tourna beaucoup dans des films français. On la vit notamment en amoureuse de Jean Gabin dans La Grande Illusion, quelques années plus tard. Et il y avait surtout dans La Talente, eh bien, Michel Simon, le grand, l'énorme, le gigantesque, qui jouait le rôle d'un marinier, puisqu'en fait le film se passe sur une péniche et que Michel Simon est une espèce de vieux garçon mal dégrossi et que le film lui-même est une histoire d'amour fou. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut dire, alors pas avec Michel Simon bien sûr, mais entre Jean Dasté et Dita Parlo, une histoire d'amour fou que Maurice Jobert illustra brillamment, même si le film, lui, connut beaucoup de déboires à l'image de tous les films de Jean Vigo, puisqu'il fut remonté, il fut retitré, on l'appela un temps Un chaland qui passe. On ajouta, et ça nous intéresse dans 24 notes secondes, une chanson qui n'était pas de Maurice Jobert, mais qui remplaçait pas du tout avantageusement sa musique. Bref, comme beaucoup de films qu'on qualifierait de maudits, La Talente mit beaucoup de temps avant de redevenir ce qu'il est aujourd'hui, heureusement, l'un des plus grands films du cinéma français et le premier et le dernier d'un réalisateur, Jean Vigo, qui en vit à peine la sortie sur les écrans, en tout cas pas de façon satisfaisante, puisqu'il mourut le 5 octobre 1934 à 29 ans. Donc voilà, une carrière les plus brèves, même si chaque année, un prix, le prix Jean Vigo, le plus prestigieux des prix du cinéma français, eh bien, lui est encore consacré pour perpétuer sa mémoire. Voilà, j'ai été assez bavard, on écoute un extrait de cette bande originale, La Talente, Maurice Jobert, dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà un bien court extrait, hélas, de la bande originale de L'Atalante, un film de Jean Vigo, tourné en 1934 et qui ne sortira vraiment sur les écrans, alors en plus, qu'en 1940. Donc Jean Vigo sera déjà mort depuis 6 ans et 1940 ne sera pas forcément la période la plus propice pour un film qui, depuis, a rejoint les rangs des grands chefs-d'œuvre du cinéma français et qui permit donc à Maurice Jobert une collaboration privilégiée dont on ne doute pas qu'elle aurait pu s'épanouir si à Jean Vigo avait été prêtée une vie plus longue. Ce ne fut pas le cas et du coup, eh bien, Maurice Jobert continua sa carrière. Et on va écouter maintenant un extrait d'un documentaire. J'ai déjà dit que Maurice Jobert avait composé la musique d'un grand nombre de documentaires qui à l'époque n'étaient pas forcément le genre un peu méprisé qu'il est devenu. Il n'y avait pas de télévision ou autre, donc les documentaires sortaient aussi sur le grand écran. Et donc, en l'espèce, il s'agit d'un film signé de Henri Storck, un cinéaste et surtout donc un documentariste belge né à Ostende en 1907 et décédé après une longue vie et plus de 60 films le 17 septembre 1999. Donc un cinéaste documentariste de la fameuse entre guillemets école belge. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire du documentaire, genre qu'en plus je connais assez mal, mais en tout cas, Henri Storck sut se distinguer par un regard tout à fait authentique sur les sujets qu'il proposait, même si en l'espèce il s'agissait d'un sujet un peu piégé de par, je dirais, les fantasmes qui pouvaient y être associés, puisque son documentaire s'intitule « L'île de Pâques » et comme le titre l'indique assez bien, il est consacré justement à cette île et à cette civilisation mystérieuse dont l'effondrement pour certains préfigure l'effondrement de notre propre civilisation, si tant est que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on puisse appeler Cyril Hanouna quelque chose comme une civilisation. Allez, écoutons plutôt un extrait de cette bande originale, Maurice Jobert, L'île de Pâques, 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà, un large extrait de la bande originale de L'île de Pâques, un documentaire d'Henri Storck. Alors en écoutant cette musique, peut-être, vous aura-t-elle évoqué autre chose. Et de fait, parmi les curiosités de la carrière de Maurice Jobert, il y aura le fait que dans les années 70, François Truffaut, qui était un fin connaisseur du cinéma français, réutilisa certaines musiques de films de Maurice Jobert, mais aussi certaines partitions, je dirais, de musique classique de Maurice Jobert pour quatre de ses films. En l'espèce, L'histoire d'Adèle H, L'argent de poche, L'homme qui aimait les femmes et La chambre verte. Et il me semble, mais je ne saurais vous le garantir, je l'avoue, que l'extrait que nous venons d'entendre de L'île de Pâques, c'est dans La chambre verte qu'on pourra le réentendre. François Truffaut rendait ici un hommage posthume à un compositeur trop tôt disparu, puisque après L'île de Pâques, eh bien, Maurice Jobert se trouva au sommet de sa carrière, même s'il l'ignorait, puisque en 2-3 ans, il composa pour quelques-uns des plus grands films français de l'époque, notamment 4 films avec Marcel Carné, et excusez du peu, Drôle de drame, Le Quai des Brumes, Hôtel du Nord et Le Jour se lève, la partition de ce dernier étant tout particulièrement connue, 4 compositions absolument magistrales dans lesquelles il illustra cette façon très attentive et en même temps très discrète d'illustrer les musiques, puisque Maurice Jobert le disait lui-même, nous ne venons pas au cinéma pour entendre de la musique, nous demandons à celle-ci d'approfondir et de prolonger en nous une impression visuelle. Donc une idée de la musique de film que beaucoup de compositeurs contemporains pourraient peut-être méditer, n'est-ce pas, Hans Zimmer ? Mais nous sommes bien loin de cela. Et en l'espèce, par contre, eh bien, l'histoire rattrapa Maurice Jobert, puisque 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, j'espère ne pas vous l'apprendre. Et avec l'ironie qu'on connaît au destin ou à qui que ce soit d'autre, eh bien, le 19 juin 1940, à quelques heures de l'armistice qui allait nous engager dans la drôle de guerre, eh bien, Maurice Jobert est fauché par une rafale de mitrailleuse et tué quelque part en Lorraine, terminant ainsi à 40 ans une carrière dont on peut estimer qu'elle aurait été absolument brillantissime, et nous laissant quand même près d'une 40aine de partitions de musique de film et une œuvre orchestrale très abondante, musique de chambre, mélodie, ballet, musique de scène et même un opéra. Bref, de quoi nourrir encore largement notre nostalgie. Et en parlant de nostalgie, eh bien on va se quitter avec la bande originale d'un film de Julien Duvivier, tourné en 1937. Ça s'appelait Un carnet de bal, un film à sketch, comme on en tournait beaucoup à l'époque, où une jeune femme reprend son carnet de bal pour retrouver ses amoureux, je dirais 40 ans plus tard. Funeste idée, évidemment, quand on est chez Julien Duvivier, mais la musique, elle est belle, je vous en laisse profiter. Carnet de bal, un carnet de bal, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, si tu veux.